Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Every child is afraid of the dark, the unknown, the nightmare. In Gatlin, Nebraska, that nightmare is in the corn. Stephen King's Children of the Corn.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale science-fiction, fantastique et horreur. Et oui, une fois n'est pas coutume, nous honorons ces trois genres que nous aimons beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la rédaction de Culture Prohibée. On commencera par La Galaxie de la Terreur, un film de Bruce D. Clarke de 1981, sorti chez BQHL. Toujours chez BQHL, on parlera de Poltergeist 2 et 3. Poltergeist 2, c'est 1986. Poltergeist 3, 1988. Poltergeist 2, c'est Brian Gibson. Et le 3 est signé de Gary Sherman. Gary Sherman, réalisateur très aimé des amateurs de fantastique et d'horreur des années 70-80, qui est également mis à l'honneur là chez un autre éditeur, chez ESC Éditions, pour enfin en France une édition digne de ce nom sur support physique de Réincarnation, son classique qui date de 1981, donc quelques années avant son Poltergeist 3. Et puis on retournera chez BQHL pour causer d'un film assez tardif en 1996, un film de loup-garou, Bad Moon, un film signé Eric Red. Nous terminerons cette petite tournée SF fantastique et horreur par une trilogie, la trilogie des Démons du Maïs, avec les trois premiers opus là, qui sortent dans un coffret chez Rimini Éditions. Le premier film de 84 est signé Fritz Kirsch, le deuxième de 92 David F. Price et le troisième de 95 James D. R. Hicox. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Timothée Tricard, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer horreur, nous avons aujourd'hui un invité qui est à distance, mais qui est près de nous. Chères auditrices et auditeurs, je veux bien sûr parler du chat errant. Johan Chanoir, historien critique de cinéma et enseignant à Sciences Po, miaou à toi, Johan.
Miaou à toute l'équipe.
Également présent dans ce studio, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimera Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Et enfin, on se tourne vers Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, forcément, puisqu'on va parler de Bad Moon, il fallait qu'il soit là, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour divers médias. Bonjour Thomas.
Bonjour Damien, bonjour Johan, bonjour Jérôme, et bien évidemment bonjour à toutes.
Prepare yourself for the ultimate battle. Galaxy of Terror.
Stranded astronauts Edward Albert and Aaron Moran battle hordes of hideous shadow demons, encounter the razor-sharp living glass, brave the pit of doomed souls, just to discover the only way out is death.
Galaxy of Terror.
Avant de parler loup-garou, les amis, je vous propose de nous envoler dans l'espace. On est en 1980, On est sur la galaxie de la terreur chez Bruce D. Clarke pour un titre qui sort chez BQHL dans une édition quand même là avec enfin une belle copie parce que c'était sorti je crois chez Backfilm si ma mémoire est bonne dans une copie quand même moyenne. Bon, évidemment encore un sous alien que ce galaxie de la terreur où les membres de l'unité spatiale Quest posent sur la planète Morgantus dans l'espoir de retrouver l'équipage de la navette Remus, qui ne donne plus signe de vie. Mais où vont-ils chercher tout ça? Et alors, ils vont alors se retrouver attaqués, terrassés, tiraillés par la peur et l'angoisse, avec aussi une des scènes de viol les plus étonnantes de l'histoire de la série B, quand même très particulière. On va dire que Norman G. Warren, l'esprit d'Inseminoïde, est passé par là également. Et mon cher Thomas, on peut le dire. Alors, si, oui, curiosité, il y a Erin Moran dedans, qui jouait dans Happy Days, la série. C'était la sœur de Richie Cunningham. C'est vrai que c'est une des curiosités du film. Ce film, ma foi, mon cher Thomas, qui, dans le genre sous-alien fauché, tient plutôt la route par rapport à toute une salve de production de son époque.
Oui, moi, je trouve que le film est plutôt efficace. Et puis, là, il va, comme Alien, allier science-fiction et puis film de terreur. Mais là, on est plutôt dans des visions. Enfin, chacun voit quelque chose de différent à faire à une entité ou à un monstre différent. On est vraiment dans quelque chose de plus cauchemardesque encore qu'Alien. Alien, ça reste encore très... très, très, très technologique, hein, quelque part, avec son monstre biomécanique. Bon, là, on est loin de ça. Hein. Bon, c'est une production Roger Corman, ce qui explique un peu que parfois, ça racole un petit peu, comme tu le disais, Gégé, avec cette scène de viol où, quand même, il réussit à mettre une fille à poil dans l'espace. Ça, c'est quand même un exploit extraordinaire. Mais c'est un film... La résolution peut-être semblait un petit peu décevante, mais bon... Moi, je trouve qu'on passe quand même un bon moment devant ce petit film de science-fiction qui ménage quelques moments de suspense, plutôt qui limite, voire même peut faire un petit peu peur.
Il y a quelqu'un qu'on n'a pas évoqué, qui est Robert Englund, qui sera pourtant très important dans les années qui arriveront plus tard pour une saga d'horreur que tout le monde connaît, avec quelqu'un qui se balade dans les rêves et effraie tout le monde. Et ça tombe bien parce que ce film, en effet, il est très bizarre parce qu'à l'origine, on va se retrouver avec... beaucoup de monstres, beaucoup de trucs étranges qui surviennent. On se dit qu'on est sur une planète habitée, mais en fait, toutes les menaces qui arrivent sont différentes les unes des autres. Ça, c'est lié au fait aussi qu'on a beaucoup de personnages qui sont assez facilement identifiables, notamment la pilote qui est considérée comme une héroïne, mais qui revient d'un truc qui l'a beaucoup traumatisée, vu que c'est quasiment la seule survivante. En fait, le film, durant très longtemps, jusqu'à vraiment la toute fin, il garde le mystère de pourquoi il y a autant de morts, pourquoi il y a autant de différences. Et ça, c'est cool, parce que ça lui permet de proposer plusieurs supplices tout au long de son film, et à la fin d'avoir une révélation qui donne un peu sens à l'entièreté, même si on y accroche ou pas. On parle beaucoup d'aliens, mais c'est intéressant parce qu'au final, il a un petit côté Event Horizon dans son sein.
C'est une bien belle édition que cette Galaxie de la Terreur de Bruce Clarke, qui est donc disponible chez BQHL. Vous écoutez Culture Prohibée. Également chez BQHL, alors là c'est plus étonnant, cette idée de vouloir nous ressortir dans des copies sublimes en plus. Poltergeist 2 et 3, le premier de Brian Gibson, qui est une émule britannique qui adore. Ils vont piocher chez les réalisateurs plus ou moins britanniques, on va dire, pour ces deux films-là, Poltergeist 2 et 3, parce que c'est Brian Gibson et Gary Sherman.
Alors Gary Sherman, qui n'est pas vraiment américain, mais qui avait quitté les États-Unis parce qu'il était opposant à Nixon et qui était allé bosser en Grande-Bretagne. C'est là qu'il fera le métro de la mort, hein, l'excellent métro de la mort, avant de revenir après aux États-Unis pour faire, justement, mais on en parlera après, pour faire Réincarnation. Les amis, moi, Poltergeist 2, alors Poltergeist 2, c'est quand même un film que je trouve assez... En fait, il me rappelle... En fait, je ferai un parallèle, moi, en cela, c'est intéressant de le revoir aujourd'hui, avec Insidious 2. En fait, je trouve que c'est deux films qui se ressemblent beaucoup et qui sont en même temps, tous les deux, assez ennuyeux, en fait, en fin de compte. Mais qui sont intéressants parce qu'ils se répondent. Et ça, c'est vraiment intéressant de revoir ça aujourd'hui. Je ne sais pas du tout si James Wan aime le deuxième Poltergeist et qu'il a volontairement fait un hommage dans son Insidious 2. Alors, Poltergeist 2, c'est quoi ? C'est la famille Freeling. Ils emménagent dans une nouvelle maison, après que la première ait été est passée par perte et fracas dans le premier opus. Mais la petite Caroline, hein, qui attire les esprits comme ça, va faire que ils vont être poursuivis encore par les démons dans ce deuxième opus. On parlera du troisième opus après, parce que le troisième opus, pour moi, c'est une tentative avortée, mais le film est super bien, je trouve, dans sa première partie, avant de basculer dans autre chose. Mais on sait que le film a échappé à son réalisateur, hein, dans la manière dont il a été fait. Voilà. Donc, mais les amis, je sais pas, Damien, il était content que j'ai ce que ça rappelle Insidious 2, mais il n'était pas content quand j'ai dit que les deux films m'ennuyaient quand même. Voilà.
Je suis d'accord avec toi, Jérôme, parce que Poltergeist, en remettant Poltergeist et Poltergeist 2, je trouve qu'il y a beaucoup de Insidious dedans. Et pour moi, ce n'est pas un hasard que... James Wan est fait sur Insidious. Pour moi, il s'en inspire énormément, et surtout le 2, où vraiment j'ai l'impression de voir un peu. C'est comme si James Wan avait vu le 2, avait dit il est bancal, je peux faire mieux, et que derrière il avait fait justement son Insidious 2, qui est très bien. Mais ce qui est. C'est pas le débat. Mais ici, on est dans la suite directe du précédent film. Le film débute même par des flashbacks en posant une ambiance indienne par-dessus, mais flashback qu'il va beaucoup utiliser au tout début à plusieurs reprises, qui est un peu abusé à certains moments, mais il arrive à remettre en place une ambiance mystique. Le casting est de retour, sauf malheureusement Dominique Dune, qui nous a quitté le monde des vivants avant le tournage dans des conditions assez horribles. Ce qui est intéressant, c'est que ce film, je ne m'en souvenais pas du tout. Je me souvenais du 1, je me souvenais que où le 3 se passait, le 2, j'en avais aucun souvenir. Et dès les premières minutes, je me suis souvenu de tout le film en entier. Et en fait, c'est un film qui est vraiment extrêmement inégal. Je trouve que l'histoire de base est très cool. Le fait de mettre une secte avec un meneur de secte en menace principale, dire que dans le 1, après que la jeune fille s'est retrouvée dans le monde des esprits, ça les a réveillés et que du coup ils se sont lancés un peu sa poursuite, c'est très très cool. On retrouve les mêmes effets spéciaux quasiment que dans le premier. On a un monde des esprits dans les effets spéciaux qui sont très vieux, mais que moi j'apprécie énormément. On a la scène avec tout ce qui est fil dentaire, qui est aussi assez incroyable. Là, la principale différence, c'est que je trouve que la famille est plus impliquée dans le combat, dans la confrontation, où chacun va avoir un petit rôle. C'est-à-dire que la mère, on va découvrir qu'elle a quand même certains pouvoirs un peu psychiques. On va découvrir que le père, il a des origines indiennes qui vont lui permettre de rentrer un peu plus frontalement contre les esprits. Et il y a un peu, dans la façon dont il brode, cette idée de vouloir donner un rôle à tout le monde, ce qui sert pas grand chose. C'est pareil, ils mettent un indien, mais ils mettent un indien pour avoir une dimension un peu mystique, et l'indien, il est juste présent. À 2-3 moments, il apparaît, il dit des trucs mystiques, mais sinon, la plupart du temps, il fait rien du tout. La scène avec le fil dentaire, c'est le gosse qui se fait enfermer par son fil dentaire dans une scène qui est chaotique. Lui, il reste à côté de la petite fille, et après, quand on lui dit « Mais pourquoi t'as rien fait ?» Il dit « Non, mais ils sont venus pour chercher la petite fille, je suis venu pour la protéger. » Mais à l'image, il fait rien du tout, alors que c'est la crise à l'intérieur de la maison. À chaque fois qu'il parle, il parle comme un stéréotype d'Indien. Et il y a un moment où le père lui dit « Mais je comprends pas du tout ce que tu veux dire. Est-ce que tu pourrais pas le dire plus simplement ?» Il lui répond « Si, au fond de toi, tu comprends. Peut-être que le père y comprend, mais nous, on n'a rien compris. » Mais voilà, il est au niveau de l'esthétique, il reste bien, l'idée de fond est bien, mais au niveau de la mise en scène, il y a beaucoup de choses qui se perdent. Alors que leur méchant, le fait de choisir un chef de secte, déjà son apparition, elle est effrayante, mais surtout la manière dont il est introduit, je la trouve vraiment iconique, c'est-à-dire qu'on le voit apparaître en fantôme, la deuxième fois qu'on le voit apparaître, c'est un jour où il y a du soleil, les enfants jouent dehors, d'un coup il se met à pleuvoir, il se met à pleuvoir parce qu'il arrive, et on a tout un échange devant le porche qui est extrêmement tendu avec le père. Donc c'est un film qui fourmille vraiment d'idées qui sont très sympathique, mais qui se perdent à plusieurs moments à l'intérieur même du film.
Moi, je ne m'ennuie pas non plus devant Insidious 2, que je rapproche plus d'un vaudeville horrifique réalisé par Blake Edwards, hein, avec des portes qui claquent et tout, etc. Bref. Donc, mais Poltergeist 2, là, je rejoins complètement Damien. Je trouve que le film est ennuyeux au possible. Le début est pas mal, le générique, il y a quelques beaux plans, etc. Mais je trouve qu'après, c'est des scènes mises bout à bout qui n'ont pas. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de liens entre elles. Et surtout, effectivement, Will Sampson, qu'est-ce qu'il fout là, quoi ? À part reprendre la petite dans ses bras dans cette fameuse scène, le reste du temps, on le voit pas. Il est censé les protéger, puis en fait, il est pas là. On le voit pas. J'ai l'impression que les scénaristes ils savaient pas quoi faire. Ils savaient pas quoi faire de ce film-là. On leur a dit il faut faire une suite. On leur a dit oh, bon, on va faire ceci, on va faire cela. Je vois des trucs complètement incohérents. Le coup du verre dans la bouteille, etc. Non, moi je trouve le film complètement ennuyeux. Puis à la fin, la résolution, ils sortent du chaos, d'un chaos indescriptible. Tout cool comme ça. Oh bah je vais partir avec ta bagnole. Oh ouais, ok, vas-y. Ouais. Ça marche pas du tout. On dirait que les acteurs n'ont pas été dirigés, quoi.
Non, c'est comme vraiment, s'ils écrivaient le scénario au fur et à mesure.
Ouais, voilà.
Mais c'est vrai que quand on fait le résumé, il vient. Il parle, il les protège pas, il dit des trucs mystiques et à la fin ils se tirent avec leur véhicule, quoi. C'est le pire assistant possible.
C'est un film trumpiste.
Ouais. Mais c'est vrai que la fin, là, c'est un happy end qui vient complètement dénaturer le reste du film, qui n'est pas dénué de qualité, mais qui est quand même bon, qui est un film loupé en fait. Le troisième de Gary Sherman, l'idée est bien meilleure. C'est-à-dire que la gamine, Caroline, elle va se retrouver. Pris en charge par sa tante Nancy Allen, très bonne actrice, et avec son mari Tom Skerritt, très bon acteur aussi. Ils se retrouvent enfermés dans une grande tour ultra moderne parce que ce sont des gens d'un certain standing. Et évidemment, les esprits vont frapper dans cette grande tour. Et à partir de là, on a toute une première partie du film. Alors, on sait que le film a subi des aléas de production, qu'il y a eu le décès de Heather O'Rourke, qu'il y a eu du coup des plans avec une doublure tournée de dos, tout ça. Alors, je pense que ça n'a pas aidé. On sait aujourd'hui, parce que Gary Sherman l'a dit, qu'il a été dépossédé de son film. Je crois même qu'il voulait enlever son nom au film ou un truc comme ça, parce qu'il ne cautionne pas du tout la deuxième partie du film. Mais ce n'est pas un film sans intérêt. Là, je trouve que c'est un film avec un bon crescendo, plein d'idées de mise en scène, et puis qui s'essouffle dans sa deuxième partie.
Alors, d'après ce que j'ai compris, il a dû retourner la fin pour en faire quelque chose de plus horrifique. Mais l'actrice, elle était déjà souffrante pendant tout le tournage, d'après ce que j'ai compris. Puis elle est décédée peu après le premier tournage où il ne pouvait plus. Enfin bref, c'est à la fin surtout qu'il y a sa doublure.
Ouais, il n'a pas du tout apprécié le fait qu'on lui fasse retourner des scènes alors qu'elle était décédée, la gamine.
Ou pas loin.
Elle était vraiment décédée. Je crois qu'elle avait la maladie de Crohn qu'à l'époque, on ne savait pas très bien traiter. Et je crois qu'il était, pareil qu'il était furieux. Et d'ailleurs, Gary Sherman...
En fait, il voulait que le film ne soit pas distribué parce que la gamine d'abord était souffrante et après elle a été malade, enfin après elle est décédée. Mais c'est la production qui a insisté pour fallait retourner la fin, faire quelque chose de plus horrifique et puis distribuer le film quoi qu'il en soit parce que il y a des sous en jeu. Mais moi je trouve que le film est intéressant, n'est pas dénué d'intérêt. Je trouve qu'il est supérieur aux deux. Je trouve qu'esthétiquement, il tient la route. Mis à part, j'aime pas trop la direction de la photographie qui est très qui est très dans l'air du temps à l'époque, hein, très lisse. Ça fait très téléfilm et qui aujourd'hui a beaucoup vieilli. Hein. Les films américains, grands spectacles, fin des années 80, début 90. J'aime pas trop la direction de la photo de cette époque-là, moi. Mais le film, c'est intéressant parce qu'en même temps, ça va avec l'esthétique du film. C'est tour, cette tour de verre, ça pourrait être le piège de cristal horrifique, hein, si le film avait été mieux tenu. Mais cette tour de verre, c'est miroir, c'est très froid, c'est très bien exploité. Et moi, il y a une scène que j'aime beaucoup, c'est la scène dans le parking avec les voitures gelées. J'aime beaucoup cette scène, je trouve qu'il y a vraiment de belles idées visuelles, de belles idées horrifiques, mais le film, malheureusement, je trouve qu'il y a un rythme indolent qui est en partie à cause de la musique de Joran Zeti qui est insupportable. Elle est omniprésente. Autant elle est bien dans le film dont on va parler juste après, mais là, elle est omniprésente. C'est de la musique d'ambiance, c'est des nappes synthétiques, c'est insupportable. Et je trouve que ça dessert le film, ça dessert dans sa tension. Et il y a, bah oui, effectivement, il y a des problèmes de production, il y a des trous dans le scénario, il y a des personnages qui disparaissent, ils réapparaissent pas. Y a la fin, on dirait qu'elle est vraiment expédiée. Mais je trouve que le film, quand même, bah, il est supérieur aux deux et bon, il y a des choses à sauver dedans.
Je te suis sur cette voie-là, Thomas. Le 3 est beaucoup mieux que le 2. Bah, Gary Sherman, même si son film est charcuté, il en fait pour beaucoup. La scène du froid, elle est vraiment trop cool. Et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait avec la caméra. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est une suite par rapport à l'histoire de notre famille qui est maudite. Mais ce qu'il fait avec le 3, c'est qu'il arrive à déloger le problème, qu'il arrive à garder ce côté esprit et qu'il arrive à le maintenir dans une unité de lieu, ce qui était le cas dans la maison qu'on avait dans le premier. Ce qui est différent du 2 où justement on les fait un peu balader, même si on voulait de base avoir une unité de lieu. Et là, il arrive à modifier l'environnement, à le garder. En fait, il se montre extrêmement inventif pour continuer à faire évoluer la saga. Et vraiment, je pense que si malheureusement ça n'avait pas été touché de tant de drames, la saga aurait continué parce qu'il avait réussi à relancer quelque chose derrière.
Effectivement, on sent que Gary Sherman, c'est quelqu'un qui a de la maîtrise, beaucoup plus que Brian Gibson, quoi. Et d'ailleurs, le moment où il instaure une ambiance, vous parliez de la scène des voitures gelées, là, ça, il y met une vraie ambiance. Dans tous ses films, hein, Gary Sherman, bon, il n'a pas tourné beaucoup. Il a fait beaucoup de pubs. En fait, je pense que c'est un milieu qui ne lui plaisait pas tant que ça. Il a dû beaucoup se battre pour faire ses films. En tout cas, moi, ce Poltergeist 3, il aurait pu ouvrir la porte à d'autres possibilités. Thomas l'a bien dit, et Damien aussi. C'est-à-dire que c'est un film qui était très novateur, en fait, dans son approche du thème de la maison hantée, de la gamine hantée, même, voilà. Que, du coup, ça aurait pu déboucher sur autre chose, donc il ne s'est pas concrétisé, parce que derrière, je pense qu'on a vraiment une production avide, quoi, de sensationnalisme, qui a toujours utilisé les malheurs qui touchaient les membres de son casting pour faire de la promotion de son film, tout ça. Et je pense que Gary Sherman a été échaudé, ça fait partie des choses qui ont échaudé Gary Sherman. Gary Sherman, il a toujours eu des difficultés avec les producteurs. Bon, là, on parlait de Poltergeist. Alors, d'abord, Poltergeist de Brian Gibson et Poltergeist 3 de Gary Sherman, donc ils sont tous les deux disponibles chez BQHL. Mais Gary Sherman, lui, il a toujours eu des difficultés dans le sens où on le voit aussi dans le super coffret là, édité par ESC de Réincarnation, qui est blindé de bonus, tous plus intéressants les uns que les autres. Il n'y a pas 15 000 bonus, par contre. C'est que des bonus pertinents. Et il y a un livret de Marc Toulec dans lequel on apprend, par exemple, que l'un des producteurs du film dont on va parler, La Réincarnation, qui est donc sorti en 81, alors qui vient dans la carrière de Gary Sherman, à un moment où Gary Sherman marche sur l'eau, c'est-à-dire qu'il vient de faire le métro de la mort. Lui, il est politiquement opposé à Nixon, ce que je disais tout à l'heure. Il est parti travailler en Angleterre. Il vient de faire le métro de la mort, qui est quand même un sacré film. Il va derrière, on en a déjà parlé dans l'émission, on a déjà beaucoup parlé de Gary Sherman, qui est un réalisateur qu'on aime bien en fait. Moi j'aime beaucoup Gary Sherman. Et derrière, il va aller faire ce Réincarnation avant de retourner aux États-Unis faire Vice Squad, qui est aussi un sacré film qui a été sorti par Jean-Baptiste Torré dans la collection Make My Day. Et il manquait que Réincarnation en fait en édition française, parce qu'il y avait une belle édition Blue Underground avec dessus les sous-titres français. Mais enfin, tant qu'à faire, autant faire vivre nos éditeurs français qui font l'effort de sortir des films magnifiques. En plus, là, c'est un très beau master restauré. Enfin, c'est vraiment une très belle édition. Et il y a un livret signé Marc Toulec dans lequel on apprend qu'en fait, dans les producteurs du film, il y avait Marc Damon. Je vous parle de ça parce que vous venez de me parler des mésaventures de Gary Sherman avec la production de Poltergeist 3. Et Marc Damon, c'est un acteur assez connu des amateurs de bis. C'était lui le héros de La Chute de la Maison du Cher de Corman. C'est lui qu'on voit en méchant, excellent méchant, dans Requiescant.
western de Carlo Lizzani, super western italien, avec un curé qui s'appelle Requiescant, parce que c'est un curé qui a jamais utilisé un flingue, mais qui flingue super bien. Donc à chaque fois qu'il tue une victime, il fait Requiescant in pace. Voilà, donc c'est excellent. Voilà, enfin bref. Et là, ce qui se passe, c'est que Marc Damon est producteur, et visiblement, comme producteur, eh ben, il n'aime pas trop la subtilité. Donc il rajoute une scène topless au début, ceux qui ont vu le film me comprennent. Il rajoute aussi le meurtre d'un vieux qui se fait tuer à un moment par une sorte de harpon, là, il est sur un bateau, voilà. Et il rajoute une scène de meurtre à l'acide, qui sont les seuls effets spéciaux qui ne sont pas faits par Stan Winston, et ça se voit à l'écran, puisque c'est la seule scène d'effets spéciaux qui n'est pas très efficace dans le film. Malgré tout, ça n'altère pas. Ça n'altère pas la qualité de ce film, qui est un film assez extraordinaire, un film lovecraftien, comme ça. Un des films de zombies les plus originaux qui ait jamais été fait dans l'histoire du cinématographe, qui se déroule à Potter's Bluff. Alors, Potter's Bluff, c'est une double référence, parce que c'est à la fois Pottersville dans La vie est belle, c'est à la fois Potter's Field, qui est le plus grand cimetière des États-Unis, Potter's Field. Et là, on est dans cette ville de Potter's Bluff, qui est une sorte de ville côtière avec une ambiance à la Lovecraft. On se croirait presque dans Dagon, en fait, hein, vraiment dans cet univers-là. Et il se passe que dans cette ville, il y a un shérif qui est joué par l'excellent James Farantino, qui vit avec la très belle Melody Anderson, qui est plus connue des amateurs de séries télé pour avoir été la compagne de Manimal, dans la fameuse série Manimal, enfin fameuse en tout cas pour les gens de la génération de Thomas et moi, mais qui est ressortie quand même en Blu-ray. Il y a un public pour ça.
La petite maison dans la prairie aussi.
Ah oui, c'est vrai, la petite maison dans la prairie, c'est vrai. J'ai regardé moi la petite maison dans la prairie, mais oui, c'est vrai.
T'as pas de cœur.
J'ai pas de cœur, voilà. Mais il va mener une enquête sur une série de meurtres qui a lieu dans la ville, et il va découvrir un truc absolument hallucinant. Et bon, je vous ai un peu révélé le potoro, c'est vrai, quand on n'a jamais vu le film, le film est particulièrement marquant la première fois qu'on le voit. Mais moi, ça fait 4 ou 5 fois que je vois ce film, et je suis toujours emporté par cette ambiance brumeuse, comme ça, ce film très étrange, pas effrayant, mais un film angoissant, très très angoissant, et dont la sortie a quand même été accompagnée de... À l'époque, on voit, là, il y a une rencontre avec Michel Landy, l'affichiste, très belle affiche. D'ailleurs, un petit coucou à Timothée Tricard qui tient une des caméras sur cet entretien. Il y a Jean-Manuel Costa, l'excellent, le maître de la stop-motion qui vient. Parce que moi, j'avais oublié ça. Mais oui, il y avait la bande-annonce du film qui était en stop-motion. Donc, il y avait un boulot monstre. Et en fait, le film a gardé pour moi une patine, un état d'esprit très particulier, et son rythme lancinant comme ça, le côté terrorisant du film, cette peur diffuse et sournoise qui l'instaure chez le spectateur, reste pour moi un modèle incroyable, d'autant plus que j'ai appris des choses là, grâce à cette édition, que par exemple cet acteur là, qui joue le petit vieux, là, le petit l'embaumeur, là, c'était un mec plutôt vu comme rigolo, c'était plutôt un danseur de claquettes aux États-Unis, tout ça. Et ce film a vraiment pour moi un état d'esprit très particulier. Je pense que vous allez vous partager mon enthousiasme sur cet excellent film, les amis.
Écoutez Culture Prohibée spéciale science-fiction, fantastique et horreur.
C'est vrai que c'est un excellent film, un petit film d'horreur comme on pouvait en voir à la fin des années 70, début 80, qui ne paye pas de mine comme ça, mais qui effectivement t'as trouvé la bonne référence qui fait beaucoup penser à Dagon de Lovecraft. Hein. C'est vrai qu'il y a cette ambiance, les marins, etc., la petite ville côtière mystérieuse qui ne semble ne pas être présente sur les cartes, parce que les gens s'y perdent, en fait. C'est ça qui est très étrange, parce que tous les gens qui sont tués dans le film sont des gens de passage, qui parfois même se perdent. Il y a même des gamins qui y passent. Hein. C'est, ça, ça rigole pas, hein, Potter's Bluff. Hein. Mais j'ai remarqué aussi un truc, c'est que c'est une ville qui semble figée dans le temps. On en a déjà parlé du film, hein, je m'en souviens. Hein, j'avais parlé d'un truc sur l'exode rural, des petites villes qui se vident et puis donc qu'il fallait repeupler, etc. Cette ville, elle semble figée dans le temps. Et j'ai revu quelque chose dans le film, c'est que les maisons, elles sont pas entretenues. Par exemple, l'intérieur de la morgue, de la morgue, là où officie ce médecin, cet embaumeur, les maisons les portes sont crades, la peinture s'écaille, et même la voiture du shérif, quand on regarde, il y a des taches de rouille dessus. Alors, sur le coup, la première vision, peut-être qu'on peut passer à côté, mais quand on revoit le film, c'est quand même bizarre, ça. Il y a plein de petits détails comme ça qui dit que cette ville, en fait, ne paraît sur aucune carte, et puis qu'elle est figée dans le temps, et puis qu'il y a peut-être beaucoup, longtemps que cet embaumeur fait ces étranges rituels.
Ça fait partie des films avec lesquels j'ai découvert Gary Sherman, et c'est un des films qui me confirmait qu'il était vraiment, vraiment talentueux. C'est un film qui m'a accroché, notamment parce qu'en effet, il y a la référence lovecraftienne qui fonctionne vraiment avec ce village pris dans son jus, d'une certaine façon. Les meurtres aussi, qui sont, comme sait le faire Sherman, assez... je ne vais pas dire violent, mais pas moins marquant pour le coup quand ils arrivent, notamment les premiers morts à l'intérieur du film, le journaliste qui prend feu. Non, c'est un film, une fois qu'on est rentré dedans, on découvre un autre univers, et c'est un film qu'on ne lâche pas, parce que l'ambiance, comme l'a évoqué Thomas, elle est à la fois fumeuse, mystique, mais on a l'impression d'avoir une menace qui nous entoure, et le fait qu'on a du mal à identifier ce que c'est, ça renforce... durant le peu de temps où on n'a absolument aucune idée de ce qui se passe, ça renforce vraiment l'ambiance menaçante de ce lieu.
Bon, on vous encourage à voir, revoir, revoir ce réincarnation de Gary Sherman, qui fait partie d'une trilogie donc exceptionnelle, hein, constituée du Métro de la Mort, de Réincarnation et de V-Squad. Donc profitez-en, parce que ce sont des films extraordinaires d'un réalisateur qui a eu une carrière un peu météorique comme ça, qui a fait trois grands films. Et puis c'est tout, j'ai envie de dire, mais pas vraiment, puisqu'on a vu aussi que son Poltergeist 3 chez BQHL, bien qu'inférieur, n'était pas dénué de qualité. Et justement, on va retourner chez BQHL, et voilà, il est en train de faire ses griffes sur la table. Je te rappelle que le studio ne nous appartient pas, Thomas. Hein, j'espère que tu es venu avec ta ponceuse. Donc notre ami Loup-Garou Picard, qui est tout énervé, parce qu'on va parler de Bad Moon. Eh oui, Bad Moon, un film de Loup-Garou signé Eric Red, un film assez tardif d'Eric Red, hein, 96, qui vient longtemps après un autre film sorti chez BQHL dont on avait parlé il n'y a pas longtemps, Cohen and Tate. Qu'est-ce que ça raconte, ce film? Ça raconte que Michael Paré, c'était un aventurier incroyable. Vous êtes au Népal, vous êtes en expédition, et là, vous êtes en train de faire l'amour avec votre femme aventurière sous la tente, dans une séquence qui évoque un peu les téléfilms de deuxième partie de soirée d'M6 dans les années 2000. Et séquence un peu ridicule, il faut bien le dire, voilà. Et puis là, vous êtes attaqué par un loup-garou. Et puis un jour, eh bien, vous rentrez et vous allez vous rapprocher de votre famille, et vous vous installez dans la cour de votre caravane, dans votre énorme caravane, dans la cour de votre sœur, qui élève seule, mère courage, avocate, qui élève seul un gamin, qui élève seul son fils. Mais vous ne serez pas le personnage principal de ce film. Non, parce que c'est là qu'il y a la patte Eric Red qui arrive. Et la patte, je ne le dis pas par hasard, le personnage principal de ce film sera le chien de la maison. Sera le chien, le film est beaucoup filmé du point de vue du chien. Ça nous donne, Thomas, un drôle de film de loup-garou, un peu fauché, avec une esthétique propre aux années 90. Voilà, on en a un peu parlé avec cette scène d'amour là. Mais en même temps, un film assez intéressant... dans sa volonté de vouloir un peu casser les codes du genre, tout en n'ayant pas vraiment les moyens de le faire, en fait.
C'est un film, en le revoyant, là, je me suis dit, mais en fait, à qui s'adresse ce film? Parce que...
À toi, Loup-Garou Picard, il s'adresse à toi.
Parce que j'ai l'impression que c'est un film pour les enfants à qui les parents lisent une petite nouvelle de Stephen King le soir avant de s'endormir. Parce que c'est quand même un film où le héros principal, bah, c'est un chien. Et je me dis, c'est étrange à qui s'adresse ce film. Est-ce que c'est un film pour enfants? Est-ce que c'est un film pour adultes, amateurs de films d'horreur? C'est très étrange. Mais en même temps, oui, c'est vrai, ça fonctionne bien. C'est vrai que le début peut paraître un petit peu ringard. Hein. Généralement, le mythe du loup-garou, on l'associe à la sexualité, hein, la bestialité, la sexualité, etc. Et effectivement, là, il devient loup-garou à un moment clé de l'extase. Hein. Quelque part, c'est lié. Mais ce que dit Julien Dupuis dans les bonus, hein, c'est... J'avais pas pensé à ça en regardant le film, et c'est vrai, c'est que cet oncle quand même qui devient de plus en plus bizarre, hein, il est mal rasé et tout, et au début il est sympathique, mais finalement plus le film avance et plus il devient mystérieux, sombre, ombrageux, bon, et puis il a un truc à régler avec le chien, hein, visiblement là, les chiens, les loups apparemment ça s'entendent pas, hein. Et c'est que ça serait le syndrome de l'alcoolisme, en fait. Ça serait une parabole sur l'alcoolisme, sur le membre de la famille qui sombre dans l'alcool. Et c'est vrai que c'est assez pertinent comme analyse. Je n'avais pas du tout pensé à ça en voyant le film. Et ceci dit, ça fait un film d'horreur, un petit film d'horreur, très sympathique.
Au final, nous vous conseillons donc de voir ou de revoir ce Bad Moon de Eric Red. Avec Michael Paré, Marielle Hemingway, avec Thor, donc Thor, qui n'est pas joué par Chris Hemsworth, comme l'a précisé Thomas, Thor le chien. Et donc un film de 96 qui est disponible chez BQHL dans une fort belle copie. Pour terminer cette émission, on va aborder une trilogie, alors... Là, c'est sorti sous forme de coffret trilogie. Il faut savoir que la série compte une dizaine de films quand même, hein, adaptés de la nouvelle Children of the Corn de Stephen King. Et là, c'est Rimini Éditions qui nous sort donc la trilogie d'origine, vraiment, c'est-à-dire que c'est les trois films les plus importants de la série. Les démons du maïs. Donc tout cela est dans un très beau coffret, trois Blu-ray, trois DVD. Là, on a un jeune couple, qui part dans le Nebraska. Alors, en plus, dans ce jeune couple, il y a Sarah Connor. Hein. Je crois que le film va sortir peu ou prou en même temps que le Terminator de James Cameron. Et à l'époque, Linda Hamilton est pas encore une star. Voilà. Et le film est une production Corman, et c'est une petite production, mais qui va rencontrer son succès à l'époque, puisque ce jeune couple va se perdre dans cette région rurale du Nebraska, et puis va, par accident, enfin en tout cas, il pense tuer un jeune garçon qui sort brusquement d'un champ de maïs. Il pense l'avoir tué en le renversant, et il décide d'aller dans la petite ville de Gatlin pour y trouver assistance. Et la ville semble abandonnée. Le jeune couple ne semble rencontrer que des enfants un peu étranges. Alors, vous l'aurez deviné, ces enfants vouent un culte à un démon du maïs. Hein, voilà, à ces fameux démons du maïs. Et donc, ils vont avoir un comportement un peu particulier. Et ils sont peut-être pas innocent par rapport à la disparition du grand nombre d'adultes dans cette bourgade de Gatlin. Alors le film, pour moi le premier film de la série de Fritz Kirsch, là, il avait tout pour être un excellent film en fait. Le côté justement folk horror, le côté enfant maléfique, les lieux atypiques, et puis ça prend pas, le rythme est un peu mollasson, ça manque de séquences fortes. Il y a une séquence au début, dans un diner, avec les enfants qui s'en prennent aux adultes, qui est extrêmement bien et qui peut nous faire croire qu'on va assister à un excellent film. Et puis non, le film bascule dans une sorte de faux rythme et en plus pas vraiment servi par ses acteurs, puisque bon, Linda Hamilton est quand même assez effacée, Peter Horton, l'autre adulte du couple, n'est pas vraiment très très impressionnant non plus. Et bon, en gros, pour moi c'est pas ce film qui fait l'intérêt du coffret. Le deuxième, tourné en 93, donc quasiment 10 ans plus tard, de David Price, alors c'est tourné par, enfin, c'est produit par une société satellite de New World Pictures, donc la boîte de Corman, qui va aussi reprendre la franchise Hellraiser. Alors c'est fait pour capitaliser sur le premier film. Alors ça vient très tard, hein, quand même. Mais le film avait vraiment bien marché. Et là, alors le film part d'une idée originale en plus, et ça loupe une idée plutôt originale, c'est-à-dire que on vient juste après le premier film. Et les rescapés du massacre de Gatlin donc, ont réussi à alerter les forces de l'ordre. Et y a des journalistes de partout qui débarquent. Et c'est une sorte de critique un peu de une sorte de vision du journalisme qui est en train d'être modifiée par l'arrivée des médias, de chaînes d'infos en continu. Et ça, c'est vraiment un propos intéressant dans le film qui n'est pas super bien exploité, malheureusement, parce que parmi les protagonistes du film, il y a un père de famille avec son ado qui est plutôt considéré comme un journaliste à la ramasse, parce que un peu méticuleux, un peu à l'ancienne. Du coup, ce propos-là aurait pu être très intéressant, et il loupe. Alors en plus, c'est bête, parce que l'acteur est plutôt pas mal, c'est Terrence Knox, que ceux qui ont regardé les séries de ma génération connaissent pour avoir été le sergent Anderson dans la série L'Enfer du Devoir. Et puis sa copine, Rosalind Allen, qui tient un Airbnb, est plutôt charmante quand même. Et on se demande d'ailleurs pourquoi elle ne se barre pas plusieurs fois. On lui pose la question pourquoi elle ne part pas de cette ville, Gatlin. Mais c'est bête, parce que le film avait un potentiel qui n'exploite pas complètement. Et pour moi, le coffret, il vaut pour le troisième film. Alors le troisième film, il est signé James D.R. Aycox. Alors je pense que ça va vous dire quelque chose. Alors déjà, le film est produit par Dimension. Alors Dimension Pictures, là, on a encore changé, hein, puisqu'on est les tristement célèbres frères Weinstein, hein, et la division Miramax pour le film d'horreur. Et là, pour ce troisième opus qui vient assez vite après le deuxième, hein, qui vient deux ans après, en 95, on a derrière la caméra James D.R. Aycox. C'est le fils de l'excellent Douglas Aycox, réalisateur entre autres de deux petits classiques de la série B, La Cible Hurlante et Théâtre de Sang. C'est le frère d'Anthony Aycox, qui va avoir son heure de gloire dans les années 90 avec des films comme Waxwork 1 et 2, Sundown, le téléfilm Full Eclipse avec les chasseurs de vampires, là. Et puis, c'est une famille d'artisans, en fait. C'est une famille d'artisans au service du cinéma populaire qui n'a qu'un but: en donner pour son argent au public. Et James D.R. Aycox, eh ben, il va s'inscrire dans cette veine pour Les Démons du Maïs 3, Les Moissons de la Terreur, où là, en plus, il va être soutenu par un acteur principal qui est un gamin qui s'appelle Daniel Cerny, qui est excellent, qui est super mignon et qu'en même temps a une tête de gamin perfide de saloupio, ce qu'il est dans le film, puisque c'est lui qui va importer une sorte de culte du maïs dans la ville. Parce que oui, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les deux fils de Earl Hutch, qui meurent dans d'horribles circonstances que je vous laisse découvrir dès le début du film, sont confiés dans une famille adoptive à Chicago. Et donc là, ils débarquent à Chicago. Ça va être la confrontation entre deux mondes, la ruralité baptiste, s'ils ont un peu des airs de Quakers, nos amis, confrontés à la ville de Chicago, qui est en plus une ville musicale, une ville industrielle. Ils vont débarquer dans une école où peu à peu, Joshua va très vite s'adapter à sa nouvelle vie. Bon, en même temps, il va rencontrer une charmante voisine dont il va très vite tomber amoureux. Et puis, Ellie, le plus jeune, donc, qui est joué par Daniel Tierney, qui est excellent, lui, il va essayer de convertir tous les ados du coin à son culte du maïs. Et au final, ce petit film, bien loin du côté sérieux, alors non seulement il a un discours anticapitaliste qui est plutôt sympa, parce que notre méchant gamin, lui, par l'intermédiaire de son père adoptif, va essayer de coloniser le monde avec sa variété de maïs pour avoir des disciples partout dans le monde. Ça, c'est très drôle, ça donne un côté Damien, la malédiction, la trilogie originelle, quoi, hein, et Petit côté Holocaust 2000 aussi, d'Alberto De Martino, que moi j'aime beaucoup. Et aux effets spéciaux, il y a Screaming Mad George, qui est un type complètement taré. D'ailleurs, à la fin, il y a une créature qui est sortie de son imagination, qui est complètement délirante. Alors, Screaming Mad George, pour les amateurs de fantastique et d'horreur, c'est tout le délire organique de Society de Brian Usna. C'est quand même pas n'importe quoi, voilà. Et moi, ce film, alors ce troisième volet, ouf, il justifie pour moi l'achat du coffret parce que c'est le meilleur film de la trilogie et c'est un divertissement de très bonne tenue, une série B horrifique comme on n'en fait plus beaucoup en fin de compte aujourd'hui et devant laquelle on passe un très bon moment.
Alors là, je pense qu'on va avoir un débat parce que je ne suis pas du tout aussi enthousiaste que Jérôme sur le 3. Je trouve que c'est le titre le moins réussi. En fait, les deux premiers sont, vraiment adaptés de l'œuvre de Stephen King, et on retrouve vraiment la patte de Stephen King. Alors, par exemple, pour le deuxième, c'est peut-être celui qui m'a plus plu sur les trois, parce que le premier, il y a Linda Hamilton, alors c'est vrai, elle est juste avant Terminator, ou elle est en train de tourner Terminator, on ne sait pas exactement, il faudrait vraiment regarder. Mais bon, je trouve que, on la regarde bien sûr avec les yeux son personnage de Sarah Connor dans Terminator, donc c'est peut-être ça aussi qui fausse un peu la donne. Mais le deuxième, je trouve qu'on retrouve tout Stephen King. Déjà avec la présence, tu l'as dit, de Terrence Knox, fabuleux acteur dans une fabuleuse série totalement oubliée aujourd'hui. Mais il y a surtout en face de lui Ned Romero, un acteur qui a une carrière à la télévision aux États-Unis absolument incroyable, hein, et qui était d'origine amérindienne et qui joue le rôle de l'Indien. Et ça, les lecteurs de Stephen King le savent, hein, il y a souvent des Indiens ou des légendes indiennes dans ses nouvelles ou dans ses livres, comme dans Cimetière par exemple. Et là, on tombe vraiment dedans. Hein, il est docteur en anthropologie à l'université voisine. Il montre aux journalistes qu'il existe un rocher plus ou moins magique sur la nécessité de préserver les biens. Donc un petit message un peu écologique derrière. Et puis, à la fin, il meurt d'une flèche. Ça, je trouve ça c'est très kingien, si cet adjectif existe. C'est vraiment ce pied de nez, alors qu'il démonte tout au long du film, enfin, le scénario démonte tout au long du film l'image de l'Amérindien, etc. Et puis, on tue une flèche, quoi. Ça, c'est assez, je trouve que c'est assez drôle. Même pour le type de personnage, ça l'est beaucoup moins. Et donc, j'ai trouvé ce côté un peu, hommage à Stephen King dans les deux premiers tomes, vraiment très, très intéressant. Le premier reprend un peu les codes du slasher, hein. On retrouve la station-service, d'ailleurs, où il n'y a pas d'essence, pas de gaz, etc. Ça, c'est très amusant avec un acteur aussi dont le nom m'échappe, mais aussi un habitué des second rôles aux États-Unis. Et je trouve que ça marche, les deux premiers marchent bien. Terrence Knox, il est mieux que le mari de Linda Hamilton dans le premier opus, et je trouve que ça fait des petits produits bien sympathiques. C'est pas des films d'exception, mais les effets spéciaux ont très très vieilli. Moi, genre, la fin du démon du maïs, donc le premier tome, c'est affreux, enfin c'est, on voit que c'est cheap, c'est, on a pris 60 ans quoi, de retard quoi, c'est absolument plus de 50 ans de retard, enfin de retard et d'évolution. Sans faire un jugement de valeur, pardon. Donc voilà, le troisième, par contre, je trouve que ça marche pas du tout. Et là, je vais pas être d'accord avec Jérôme. Il m'a ennuyé, c'est ce côté un peu... on reprend encore une fois, on tient le fil. Alors, ce qui est bien fait, par contre, ça Jérôme, il a tout à fait raison de le dire, c'est la transposition dans un univers urbain, avec une culture qui n'est pas du tout une culture rurale. On sort de la petite communauté en fait rurale qui est très traditionnelle chez Stephen King aussi, et dans les slashers. Et là, on aborde autre chose. Effectivement, une société urbaine dans une très très grande métropole des États-Unis, avec une autre culture, donc un autre territoire, d'autres espaces à filmer. Et là, il y a des scènes de rue qui sont bien faites. Mais je trouve que l'histoire est poussive en fait. Et alors moi, ça sera mon mot de la fin. Le classement, ça serait en 1, le démon du maïs 2, en 2, le démon du maïs 1, et en 3, mais vraiment bien en 3, le démon du maïs 3.
Je vais laisser Damien trancher, car on arrive à la fin de l'émission et il va avoir le rôle d'arbitre.
Moi, ma préférence, elle va, comme pour Jérôme, sur le 3. En fait, le premier, je trouve que l'histoire, le fond est très intéressant, mais j'ai l'impression qu'il a un peu du mal justement à gérer le fond de son histoire, ce qui en fait un peu une coquille vide au final. Ça s'appelle Les démons du maïs, et en soi, ce qui est intéressant, c'est que bah, dans le film, il n'y a qu'un seul démon qui est présenté, qui est Malaki, et en fait, le titre français renvoie à, justement, les enfants en tant que menace. La scène d'introduction, comme tu le dis, Johan, met sur la piste d'un peu d'un slasher, mais en fait, le film évacue assez vite ça pour se concentrer un peu plus, il reste des moments assez violents, mais un peu plus sur l'ambiance. C'est pour ça qu'on se rapproche assez du côté un peu folklorique. Et si je mettais en avant l'importance des enfants, c'est que normalement, c'est eux qui sont censés porter un peu l'entièreté de chaque film. Alors, le premier, plus ou moins, on a deux personnages d'enfants, trois, qui vont être importants au cours de l'histoire, mais c'est vrai que les adultes, ce jeune couple marié, donc qui viennent un peu de rentrer dans la vie vraiment d'adultes, vont être importants pour le reste du récit. Le 2 est intéressant, en effet, par cette vision un peu critique des médias qui est mise en avant, parce que si le père va à Gatlin, c'est justement pour essayer de se refaire une réputation par rapport à celle qu'il a, parce qu'elle est rapidement descendue. Mais à nouveau, dans le 2, on prend du temps pour tisser les différentes relations, les relations des jeunes, mais aussi la relation des adultes. En fait, le film propose toujours cet élément à égalité, autant les relations des adultes entre eux que les relations des enfants entre eux, surtout que bah, dans le 2, on a tout cet élément d'un enfant qui vient de l'extérieur du village et qui va rentrer finalement dans cette secte au fur et à mesure où il aura une décision finale à prendre. Et le 3, on est tous d'accord là-dessus, l'idée qui est géniale, c'est de transposer vraiment ce film-là qui était vraiment attaché à une communauté dans le Nebraska, à Gatlin, tout petit village, l'emmener dans une culture urbaine. C'est l'idée, c'est la meilleure idée. Ça en fait un meilleur film que le reste, mais je trouve qu'au fur et à mesure que les films évoluent, il s'améliore. L'autre chose aussi qui peut aider le démon du maïs 3, c'est qu'en fait, il réapplique les codes de l'horreur à l'époque. C'est-à-dire que c'est un film qui va être beaucoup plus gore que les films précédents, qui va être beaucoup plus d'effets dans le gore. On va avoir bah, beaucoup de sang, plus de sang que dans tous les précédents films. Et en fait, c'est un film qui va choisir de sacrifier l'ambiance qu'il essayait de poser dans les précédents films pour faire le choix tout simplement de l'horreur. Il y a un autre truc que j'aime bien dans le 3, c'est que bah, déjà, les personnages d'enfants ont beaucoup plus de place. On n'a pas une opposition seulement entre enfants et l'adulte. Là, on a vraiment une opposition entre enfants qui est mise en avant, plus exactement entre frères, même si on le découvrira au cours du film, ils ne sont pas vraiment frères de sang. Et la dernière chose qui fonctionne, c'est l'affrontement entre prédicateurs. C'est-à-dire que Ellie, dans le troisième film, c'est le prédicateur du démon qui est lié au maïs. Et là, on a un autre prêtre révérend qui est présent, qui est censé être la voix du dieu basique chrétien, mais qui se retrouve vite submergé par ça. Et c'est bête parce que c'est un discours qu'ils auraient pu développer. Mais oui, moi, je mettrais le troisième film en premier, le deuxième film en deuxième, et peut-être, je trouve, à mes yeux, le premier film qui est le plus faible.
Bon, vous avez compris, chers auditrices et auditeurs, nous ne sommes pas d'accord, mais les trois films ont des qualités différentes. On est face à de la série B et on est face à, comment dire, à des films qui, comme on n'en fait plus quand même, donc c'est toujours sympathique de revoir ce genre de petite production qui était quand même prévue pour sortir en salle quand même, et pas sur des plateformes. Donc c'est la trilogie les démons du maïs, et c'est disponible chez Rimini Edition, et donc on vous le conseille vivement. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et Radio Graphite, graphite.net. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Poitier, dit La Gorgone. Une émission animée avec Johan Chanoir, dit le chat errant, Damien Demey, dit la bête noire de Compiègne, Thomas Roland, dit le loup-garou picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.